Nous sommes toujours dans ce thème qui nous tient à cœur, le thème de l'Église. Vous savez que l'Église est bien évidemment quelque chose qui tient Dieu à cœur. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant de retourner vers sa patrie céleste, va entretenir ses disciples, du moins ce qui en restait juste avant son ascension. Il va les entretenir. La Bible nous dit dans justement le livre des Actes, Luc nous relate cela, Jésus va entretenir ses disciples pendant 40 jours en ce qui concerne les choses du royaume. Et lorsqu'on parle du royaume, Jésus nous a dit que le royaume n'est pas quelque chose que l'on peut trouver à un endroit, parce que le royaume n'est pas physique. Il n'est ni dans l'espace, il n'est ni dans le temps. C'est le royaume de Dieu qui, sur la terre, actuellement est constitué des hommes et des femmes qui ont fait alliance avec lui par la personne de Jésus-Christ. Donc le royaume de Dieu a deux composantes, la composante céleste et la composante terrestre. Et pour ce qui est de la composante terrestre, Jésus a bien voulu nous donner des indications sur comment est-ce que nous devons vivre justement pour glorifier Dieu, pour faire en sorte que cette composante terrestre du royaume soit un très bon agent du royaume sur la terre. Et nous, depuis le mois de janvier, nous parlons de l'Église sous plusieurs formes. Cette Église constituée des pierres vivantes que nous sommes, cette Église qui se réunissait dans le temple et dans les maisons, cette Église qui est le corps de Christ, cette Église en qui, dans ce corps, Dieu a mis vraiment son plan divin de croissance et de multiplication. Cette Église qui va faire face aux défis parfois de l'intimidation, aux défis de la mort qui peut frapper parmi les chrétiens. Nous l'avons vu la semaine dernière avec le meurtre d'Étienne. Nous l'avons vu avec la décapitation de Jacques. Rassurez-vous, ce n'est pas Jacques Reynaud. Hein. Jacques Reynaud est bien parmi nous ce matin. Et donc nous voyons que l'Église est engagée dans un processus où c'est Dieu qui a voulu que son Fils soit la tête et que vous et moi ce matin, la plupart d'entre nous du moins, soyons les membres de ce corps. Et donc nous avançons là où la tête nous amène. Nous ne pouvons pas choisir d'aller où nous avons envie parce que le membre ne décide pas de lui-même, il ne peut suivre que justement les ordres de la tête. Et lorsque Dieu... L'homme et la femme vont désobéir dans le jardin. Dieu va annoncer le plan de la rédemption. Et Dieu, en annonçant le plan de la rédemption, pour pouvoir mettre ce plan à exécution, après plusieurs millénaires, il va aller vers un homme appelé Abraham. Et à cet homme, il va faire une promesse. Il va lui dire, voilà, je t'appelle pour que tu sois le patriarche, pour que tu sois un maillon de cette chaîne que je suis en train de mettre en place bout par bout. Il dit, ben voilà, je t'appelle, et Abraham va accepter l'appel de Dieu, et Dieu va lui dire, le peuple qui sortira de toi va connaître des moments difficiles. Il va être esclave dans un pays étranger, mais moi-même j'irai pour l'en délivrer, et je lui donnerai le pays où tu vis actuellement, ce pays où coule le lait et le miel. Et nous savons que Dieu, lorsqu'il va délivrer le peuple d'Israël, il y a deux objectifs à cela. L'objectif, comme Dieu l'a dit, dit à Pharaon de laisser mon peuple aller dans le désert afin de m'adorer. L'objectif de Dieu, c'est que le peuple adore Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que le peuple arrive à Canaan pour être justement un représentant de Dieu parmi tous les peuples païens. Le but de Dieu n'était pas de faire en sorte d'avoir un peuple pour que celui-ci l'adore, c'est vrai, mais juste pour l'adorer. Non, notre adoration doit avoir des conséquences positives sur ceux et celles qui nous entourent. Sinon, sinon nous serions des anges. Et la preuve que nous ne sommes pas des anges, eux, ils sont auprès de Dieu et dans le ciel pour l'adorer. Ils ne font que ça. Nous sommes là pour que ceux et celles qui nous regardent puissent reconnaître en nous le Dieu qui nous a sauvés. Puisse reconnaître en nous le Dieu qui nous a délivrés de tous nos péchés par le sang de son Fils. C'est cela. Et donc, nous avons besoin de comprendre l'Église, la première Église, représentée ici par le peuple d'Israël. C'est une église que Dieu va prendre justement pour pouvoir être son agent au milieu des peuples païens qui entouraient Canaan. C'est pour cette raison que Dieu leur avait dit, je vous envoie à Canaan pour que vous soyez justement mes représentants, pour que lorsque les peuples alentours vous voient, qu'ils sachent que je suis votre Dieu. Dieu n'a pas d'autre moyen de montrer qu'il est Dieu aux hommes, si ce n'est à travers ceux et celles qu'il a sauvés par le sang de son Fils. Il n'a pas d'autre moyen. Nous sommes les agents de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais simplement voir avec vous cette église qui se sanctifie et qui sert jusqu'au bout. L'église se sanctifie et elle sert jusqu'au bout. Comme je viens de le dire, lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël, c'était pour le mettre à part, pour lui seul, pour lui qui est Dieu. Ensuite, pour que ce peuple puisse témoigner de lui à tous les autres peuples alentour. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses. On dit, ah, attention, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas se mélanger avec les gens de l'extérieur. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons vu il y a quelques dimanches maintenant, lorsque nous considérons même les ministères que Christ a donnés à l'Église, dans les ministères, écoutez, le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, c'est un ministère qui est consacré à quoi? À l'extérieur, par exemple. Donc Dieu a mis dans l'Église l'ADN de la multiplication. On ne peut pas faire l'économie de la multiplication. Si nous refusons de nous multiplier, c'est comme si nous refusions à un enfant de croître, de grandir, de se transformer, de prendre un aspect adulte, un aspect de mature, qui va lui permettre lui aussi à son tour de faire quoi? De se multiplier. Donc l'Église se sanctifie. Et j'aimerais qu'on puisse regarder cela à travers deux paraboles que Jésus nous a laissées dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Et la première lecture, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. La suite. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On poursuit. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ouf. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Cette première parabole que Jésus nous donne concerne un groupe d'individus. Vous avez tout de suite repérer que Jésus est en train de parler de lui-même. Il est en train de parler de son retour et il nous donne ici l'image de 10 vierges qui représentent l'Église. Jésus nous dit, le royaume des cieux, c'est pour ça qu'à la fin il termine en disant, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure à laquelle Jésus reviendra. Il dit l'Église représentée par ces 10 vierges. Et Jésus nous met en garde, parce qu'il nous dit, écoutez, il y a 10 vierges, il y a 2 groupes qui s'en dégagent. Il y a un groupe de celles qui prennent toutes les précautions, et il y a un autre groupe de celles qui ne prennent pas les précautions. Autrement dit, il y a un groupe de celles qui se préparent, et un autre groupe de celles qui ne se préparent pas. Le premier groupe est constitué justement des vierges qui sont sages et le deuxième des vierges qui sont folles. Au départ, nous avons dit vierges. Vous avez compris, ici n'est pas question d'une virginité naturelle, physiologique. Non, Jésus est en train de parler de ceux et celles qui ont obtenu par son sang l'innocence devant Dieu. Des hommes et des femmes qui ont été rendus innocents par le sang de Jésus devant Dieu, qui ont recouvré leur virginité spirituelle. Des hommes et des femmes qui étaient condamnables, qui avaient perdu leur virginité spirituelle, mais qui en Jésus l'ont retrouvée. Ils ont retrouvé cette virginité et Jésus nous dit, vous êtes comme ces vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Et dans ce que nous lisons, il est question des lampes que ces vierges utilisent pour pouvoir aller à la rencontre de cet époux. Et vous avez remarqué que lorsque les vierges se mettent en route pour aller à la rencontre de l'époux, ce n'est pas parce qu'on leur a dit que l'époux est déjà là. Ceci caractérise le cheminement de la vie chrétienne. Dès que nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous nous mettons en route à la rencontre de l'agneau. Alléluia. Nous allons chaque jour sur la terre, nous devons nous préparer pour aller à la rencontre de l'agneau. Nous devons nous sanctifier, nous devons nous mettre à part pour aller rencontrer celui qui est le plus bel époux qui puisse exister. Jésus-Christ de Nazareth, qui va revenir dans les nuées et le Saint-Esprit viendra prendre son épouse pour aller à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Mais Jésus nous dit quand même que parmi ces 10 vierges qui, au départ, ont toutes des lampes, qui doivent avoir des mèches, des lampes qui ont de l'huile, Jésus nous dit qu'il y en a, il y a un groupe qui ne se prépare pas. Il y a un groupe qui ne se prépare pas. C'est vrai que je n'aimerais pas faire beaucoup. Je n'aimerais pas beaucoup imaginer ce matin, mais parce que c'est ainsi, en préparant ce message, que les choses sont venues à moi. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse considérer ce que c'est une lampe ce matin. Lorsqu'on parle de lampe, Proverbe 20, 27 nous dit quoi sur la lampe? Nous dit quoi? Que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ça, c'est la version Louis II. Et la version Second 21 nous dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Autrement dit, l'apôtre Paul qui nous dit dans Colossiens que l'être entier des hommes et des femmes nés de nouveau en Christ est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. La Bible nous dit que la nouvelle naissance concerne notre esprit qui revient à la vie. C'est dans cet esprit-là que Dieu dépose toutes choses. C'est dans cet esprit-là que Dieu demeure. Et parce que Dieu demeure dedans, Dieu utilise notre esprit non seulement comme la lampe de notre propre vie. Quand la Bible nous dit que cet esprit, cette lampe-là, explore même le plus profond de l'être, ou du moins pénètre jusqu'au fond des entrailles, Dieu va l'utiliser. Et dans l'image qui suit, je vous ai mis deux lampes. Il y a une lampe à huile et une lampe à pétrole. Il y en a peut-être certains qui ont connu les deux, mais je crois qu'il n'y en a plus parmi nous. Hein. Ça fait un moment qu'il y a l'électricité. Moi, j'ai connu la deuxième. J'ai connu la lampe à pétrole au village en Afrique. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans cette lampe, la lampe, en fait, c'est quoi? La lampe, c'est quelque chose, c'est un récipient qui est là pour recevoir ou bien pour contenir des choses qu'on doit mettre ensemble pour produire la lumière, en fait. La lampe, c'est cela. Que ça soit pour la lampe à huile ou la lampe à pétrole, c'est le même mécanisme, c'est le même principe. Ce qui change seulement, c'est que ici, on utilisait soit des graisses végétales, des huiles végétales ou des huiles animales, qui n'étaient pas d'ailleurs de très bons combustibles. Et ici, on utilise le pétrole qui est plus léger et c'est plus favorable. Donc la lampe contient quoi? La lampe va contenir justement l'huile et la mèche. Et c'est l'ensemble huile plus mèche qui va donner quoi? La lumière. L'ensemble huile plus mèche va donner la lumière. L'huile, c'est ici l'image du Saint-Esprit. La mèche, c'est l'image de la parole de Dieu. Et nous, nous sommes cette lampe, comme nous venons de le lire. Et dans cette lampe, il y a justement le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui habitent pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque Jésus parle de lampe, vous avez compris qu'il n'est pas question des lampes comme celles que vous avez à l'écran. Non! Personne n'ira avec une lampe à huile, encore qu'aujourd'hui ça n'existe pas, peut-être encore au fin fond de l'Afrique ou de la forêt amazonienne. Aujourd'hui, voici ce que nous avons comme lumière. Jésus n'aurait pu parler de lampe à incandescence, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc, il a parlé de ce qui existait. Même la deuxième, la lampe à pétrole, je ne suis pas sûr qu'elle existait. Mais la lampe à huile, c'est sûr. Jésus nous parle donc de ces éléments. L'homme, la femme née de nouveau, cette nouvelle créature en Christ, comme nous dit Paul dans Corinthiens, si quelqu'un en Christ, quelqu'un est, la nouvelle, est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, dans cette nouveauté de vie, tu as le Saint-Esprit et la parole qui sont en toi. Et ce sont ces deux éléments qui vont t'éclairer au fur et à mesure de ton cheminement de la vie chrétienne. Jusqu'à ce qu'un jour tu aies la rencontre de l'époux. Nous sommes passés à un nouveau régime. Dans l'ancien régime de l'ancienne alliance, le psalmiste va nous dire, dans la diapo qui suit, dans le psaume 119, il va nous dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas la parole en eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils avaient la parole de Dieu inscrite sur des tables de la loi. C'est pour cette raison qu'ils vont dire, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle m'éclaire de l'extérieur. Elle me permet seulement de voir de l'extérieur. C'est pour cette raison que les hommes et les femmes de l'ancienne alliance ne pouvaient pas changer à l'intérieur. Parce que le programme du changement intérieur n'était pas encore arrivé. Il est arrivé avec le Saint-Esprit. Donc eux, ils avaient cette parole qui était une lampe à leurs pieds, une lumière sur leur sentier, qui les éclairait. C'est la raison pour laquelle Dieu va rester dans une cage, et Dieu va se manifester par la nuée, ou bien par une colonne de feu. Si aujourd'hui vous voulez ces choses-là, vous ne les aurez pas. Eh bien oui, parce qu'il y en a parfois qui disent, Seigneur, une colonne de feu, une nuée, mais pourquoi faire? Jésus est venu, le Saint-Esprit est venu, ils sont en nous, pourquoi faire? C'est pour ça que vous avez l'impression que les choses étaient extérieures dans l'ancienne alliance. Parce que celui qui est venu mourir pour les péchés n'avait pas encore été manifesté. Donc, dans l'ancienne alliance, la parole est une lampe à nos pieds. Et toujours dans cette ancienne alliance, dans Ézéchiel, la diapo qui suit, dans Ézéchiel, voici ce que Dieu dit. Dieu dit, prophétise maintenant pour les générations qui vont venir plus tard. Et cette génération-là nous concerne aujourd'hui. Ou du moins, elle concerne les hommes et les femmes depuis 2000 ans. Voici ce que Ézéchiel va dire. Je répandrai sur vous, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est ce que je viens de dire. Dieu nous a sauvés de nos péchés par le sang de son Fils. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous, de votre corps, le cœur de pierre. C'est-à-dire le cœur qui ne peut pas être sensible aux choses de Dieu. C'est ce que les hommes et les femmes de l'Ancien Testament avaient. Ce n'était pas parce qu'ils étaient mauvais, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans une alliance qui leur permettait justement d'avoir ce cœur nouveau. Et je vous donnerai un cœur de chair. Dans quel but? Pour que Dieu mette son esprit en nous et il fera en sorte que nous suivions ses ordonnances et que nous observions et pratiquions ses lois. Dieu annonce la couleur. Il dit, Ézéchiel annonce. 700 ans à peu près. Il dit, annonce maintenant la couleur. Que quand le Fils va arriver, les hommes et les femmes du nouveau régime, du nouveau testament, les hommes et les femmes qui vont accepter mon Fils comme leur sauveur et leur Seigneur, ces hommes en eux, ces femmes en elles, je mettrai un esprit nouveau. C'est-à-dire, je vais ressusciter leur esprit qui est mort en moi. Ils vont avoir la vie, et dans cet esprit vivant, je mettrai moi-même mon esprit, dans le but de leur permettre justement d'être obéissants à mes ordonnances, à mes commandements et à mes lois. Donc c'est pour cette raison que, dans la diapo qui suit, l'apôtre Jacques va nous dire, eh bien écoutez, nous n'avons plus besoin de cette parole qui est lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Pourquoi? C'est parce que, comme nous venons de lire dans Ézéchiel, en rejetant toute souillure et tout excès de malice, nous devons recevoir avec douceur la parole qui a été plantée où? En nous. Et qui peut sauver nos âmes. Dieu nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et ce matin, Dieu nous a encore peut-être interpellé une ou plusieurs personnes sur les pensées qui aboutissent en général à des raisonnements. Dieu nous dit de recevoir. Donc la parole de Dieu est où? Quand il dit qu'il a planté cette parole-là, ce n'est pas la Bible que nous avons, pour que nous la récitions, non. Quand il dit qu'il l'a plantée, ça veut dire en nous. Quand nous naissons de nouveau en nous, Dieu met sa volonté. Dieu met sa volonté en nous pour que nous puissions lui obéir, pour que nous puissions vivre en harmonie avec ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie. C'est ce que l'apôtre va nous dire. Et Luc va nous dire, en ce qui concerne un épisode de deux personnes justement qui, le jour de la résurrection, vont quitter Jérusalem pour aller dans un village appelé Emmaüs, et alors que Jésus va leur apparaître, ils ne vont pas le reconnaître, et voici ce qu'ils vont dire pendant que Jésus était à table avec ses disciples, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, écoutez, ils en viennent à cette conclusion, ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc la parole a un feu, le feu de la parole. Lorsque la parole va être au contact de l'huile, elle produit cette lumière. Et c'est de cette lumière dont Jean parle quand il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et il va dire que cette parole est venue au milieu des hommes. Cette parole est la lumière, elle est la vie des hommes, elle est claire. La parole n'éclaire pas à l'extérieur, elle éclaire à l'intérieur. C'est pour cette raison que les disciples d'Emmaüs vont dire, mais quand ils nous expliquaient les Écritures, il y avait comme un feu qui nous embrasait au-dedans de nous. Il y avait quelque chose qui brûlait en nous, parce que la parole brûle en nous. La parole brûle dans nos cœurs. Parce que c'est la parole et le Saint-Esprit ensemble. Vous avez remarqué, dès le commencement, quand vous lisez la Bible dans Genèse, la Bible nous dit quoi? Qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Ah. Et le Saint-Esprit faisait quoi? Il se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce principe divin qui ne changera jamais. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. À quel moment? Parce que la Bible dit que la terre était recouverte de quoi? Des ténèbres. Dieu voulait que la lumière soit sur la terre, oui ou non? Qu'a-t-il fait? Il a parlé. Et lorsque le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux a entendu cette parole qui est sortie, il a pris cette parole, il en a fait la lumière. Sans la parole, le Saint-Esprit est inopérant. Un enfant de Dieu qui néglige la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas faire grand-chose dans sa vie. Si vous mettez l'huile seule, vous mettez le feu, vous allez avoir du feu, mais vous n'aurez pas de lumière. Vous allez avoir un grand feu. Et si vous prenez une mèche, vous l'allumez, vous allez avoir un semblant de feu. Et ça va s'éteindre tout de suite. C'est la combinaison des deux qui fait que nous ayons la lumière. Quand le Saint-Esprit, c'est pour cette raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Ça dit que c'est l'outil que l'Esprit utilise pour faire le travail, pour séparer âme et esprit, pour séparer moelle et jointure. Et cette parole, elle sonde même la profondeur, elle juge même les pensées de notre cœur. Donc c'est la combinaison des deux. Et nous le voyons encore ici. Lorsque Jésus, pendant 30 ans, il était en train de travailler avec Joseph, il sciait le bois, il était charpentier. Il n'y avait rien. Pourtant, il était la parole incarnée, oui ou non? Oui. Mais le jour où il s'est rendu au Jourdain, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, à partir de ce jour-là, Jésus n'était plus le même, oui ou non? Parce que le Saint-Esprit a reçu quoi? Celui qui est descendu sur Jésus. Même si Jésus était la parole incarnée. Le Saint-Esprit s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur la parole que Dieu a fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit a dit, mon gars, le programme c'est quoi? Au désert, tout de suite. Sans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer. Vous avez beau prier toute une nuit, si vous méprisez la parole de Dieu, vous êtes un chrétien déséquilibré. Vous devez prier, vous devez méditer la parole et vous devez laisser le Saint-Esprit vous guider tous les jours. Un enfant de Dieu doit être équilibré. Frères et sœurs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous-mêmes? C'est pour cette raison que l'apôtre Paul va s'adresser aux chrétiens de Colosse en ces termes. Il va leur dire, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Que s'est-il passé pour notre groupe de vierges folles? C'est qu'à un moment, elles n'avaient plus d'huile. Cela caractérise le manque de communion. Elles n'avaient plus de communion avec le Saint-Esprit. Alors, je veux vous dire quelque chose que vous savez peut-être déjà. La Bible nous dit que celui qui va nous faire paraître, qui va nous amener à Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as plus de communion avec le Saint-Esprit, qui va t'amener à la rencontre de l'époux? Elles n'avaient plus d'huile. Cela caractérise le fait qu'elles n'ont pas pris au sérieux leur œuvre de sanctification. Leur œuvre, la sanctification, c'est la préparation aussi. Elles ne se sont pas préparées. Et frère, vous savez, moi, ce texte, mais vraiment, il me pousse à la réflexion, mais à une réflexion profonde. Je me dis, mais oui, Seigneur. Parce que quelquefois, on peut se dire, oh oui, on peut vivre notre vie comme on a envie. Et puis on ira au ciel. Ah non, il n'est pas question ici de la chanson de l'homme aux lunettes blanches. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas cela, frères et sœurs. La Bible est sérieuse. La Bible nous dit, Jésus, c'est Jésus qui nous met en garde. Jésus nous dit, il va fermer la porte à ceux et à celles qui n'auront pas préparé la rencontre avec l'époux. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour nous dire, attention. Veillez, c'est pour ça qu'il dit veillez, soyez vigilants. La première vigilance, c'est sur nous-mêmes, frères et sœurs. Si notre cœur, si notre esprit est la lampe de Dieu, mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que nous devons veiller, nous devons garder notre cœur plus que tout autre, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Frères et sœurs, nous avons cette responsabilité. Parce que Dieu ne veut qu'aucun ne soit perdu. Il nous met en garde, il dit attention, préparez-vous. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Pourquoi? Parce que lui veut nous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Sans reproche. Si toutefois nous demeurons dans quoi? Attachés à la parole de Dieu. Alors, parce que les vierges folles n'avaient plus de communion avec le Saint-Esprit. La parole s'est consumée dans leur cœur. La mèche ne peut pas tenir sans l'huile. C'est la combinaison de deux, comme je viens de le dire à l'instant, qui fait que nous ayons la lumière. L'apôtre Pierre va le dire d'une manière différente. Il va parler, il va dire, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant le retour du Seigneur, vu que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Alors, Pierre nous dit, en attendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Nous devons nous sanctifier, frères et sœurs. Nous devons éviter de vivre n'importe comment. Ce n'est pas une loi morale que je vous donne ce matin, mais c'est Jésus qui nous y interpelle. Il nous dit, attention, il n'a pas envie qu'il y ait des vierges folles qui restent parce qu'il a donné son sang pour tous. Veillons à notre communion avec le Saint-Esprit. Veillons à comment est-ce que nous considérons la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un simple conseil. La parole de Dieu, c'est la vie. Et la Bible nous dit par ailleurs que cette parole, elle est esprit et vie. Elle est inspirée par le Saint-Esprit et elle communique la vie à celui, à celle qui s'attache à cette parole. C'est pour cela que Dieu nous dit de la mettre en pratique, de ne pas être simplement des auditeurs oublieux, des hommes et des femmes qui écoutent dimanche après dimanche, semaine après semaine, et qui, lorsqu'ils sortent de ces lieux, eh bien, ils rentrent chez eux, ils oublient ce qu'ils ont entendu. Il dit, nous serons comme des hommes et des femmes qui, s'étant regardés, on oublie tout de suite quel était l'aspect de notre visage. Bien évidemment, ça c'est la première parabole sur les talents, la sanctification. Et si Jésus s'était arrêté là, on aurait dit, ah oui, tout ce que Jésus veut, c'est que l'on se sanctifie et puis que l'on attende, voilà, les bras croisés, les pieds croisés, jusqu'à ce qu'il vienne et puis, ben voilà, quand on dit, oh, il est arrivé l'époux, et puis on y va. Ah ben non, mais Jésus va nous donner une autre parabole qui suit tout de suite et qui est en corrélation, qui est en relation directe avec la première parabole sur les vierges. Ça va être la parabole des talents et nous allons en lire quelques extraits. Jésus va dire, le royaume des cieux sera aussi comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Regardez ce que Jésus dit, frères et sœurs. Jésus parle encore là de qui ? De lui-même. Il dit, maintenant je m'en vais, mais sachez que je vous ai confié mon affaire, je vous ai confié mon business. Mais quand je reviendrai, je vous demanderai les comptes. C'est ce que Jésus nous dit, frères et sœurs. Il est en train de parler de lui-même dans ses paroles. Il est en train de parler du jour de son retour. Il dit, voici ce qu'il va en être quand je reviendrai. Il dit, j'ai donné à tout le monde des talents. Personne ce matin ne peut dire, moi, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que nous avons tous reçu au moins un talent pour pas que l'on soit encombré. Parce que Dieu tient bien évidemment compte de notre temps. Il sait qu'on travaille 8 heures par jour. Hein? Ah donc, ben, s'il sait qu'on travaille 8 heures par jour, il va nous en donner qu'un seul. Et bien pour ceux qui ne travaillent pas 8 heures par jour, il va leur en donner un peu plus peut-être. Il dit qu'il donne selon sa capacité. Selon la capacité de chacun. Vous avez remarqué que sur un arbre, toutes les branches ne portent pas autant de fruits. C'est une loi naturelle, c'est en fonction de la force de la branche, parce que si vous lui en mettez trop, elle ne va pas supporter. C'est pour cela qu'il y a l'éclaircissage aussi, pour enlever les fruits inutiles, ou bien les fruits en trop, pour permettre un meilleur épanouissement des fruits qui vont rester, qui vont demeurer sur l'arbre. Jésus dit, je vous ai donné les talents, il en a donné 5, et celui qui a eu les 5, qu'est-ce qu'il a fait ? La multiplication. Celui qui en a reçu 2, il a fait quoi ? La multiplication. Et celui qui en a reçu un seul. Vous savez, vous connaissez ce texte, je n'ai pas voulu mettre tout le texte pour éviter. Il va dire à Jésus, il va dire, non, mais je sais, maître, que tu es un homme dur. Tu es un homme dur, tu fais comme tu as envie. Et comme j'ai eu peur, je me suis dit, bon, son talent qu'il m'a filé, moi je ne vais rien faire avec, pour m'assurer que le jour où il reviendra, je n'aurai pas de difficultés, de problèmes avec lui, mais je vais l'enfuir quelque part en attendant qu'il revienne. Et regardez maintenant la réponse que Jésus va faire, justement. Son maître va répondre, lorsque son maître, c'est-à-dire le maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Oh, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Ah. « Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les dix, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements d'eux. » C'est quand même dur, frères et sœurs. C'est Jésus qui nous dit ça. Il ne nous dit pas ça parce qu'il ne nous aime pas. Il nous met juste en garde pour dire « Attention, la vie chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. C'est un engagement pour l'éternité. Ce n'est pas un engagement juste pour quelque temps. C'est un engagement pour l'éternité. Pourquoi dira-t-il de la troisième personne qui a reçu un talent, il va dire « Serviteur, il va dire serviteur méchant et paresseux. » Ah, ça veut dire que Dieu veut que l'on se sanctifie, mais il ne veut pas que l'on soit coupé de ce monde. Frère, arrêtons de prier, éloigne-nous du monde. Dieu nous garde dans le monde pour le monde. Si nous éloignons du monde, on n'a plus de raison d'être ici. Arrêtons, Dieu nous garde ici à Angers pour les anges, mais ce n'est pas pour que nous soyons... Non, Dieu prend plaisir au moment de communion comme celui que nous passons ce matin ensemble. Mais Dieu s'attend à quoi? À ce que lorsque nous sortons d'ici, que nous soyons des ambassadeurs pour Christ, des ambassadeurs du royaume, des hommes et des femmes qui témoignent de Christ. C'est la raison pour laquelle il nous a donné quoi? Le Saint-Esprit pour être ses témoins. C'est la raison pour laquelle il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pour réconcilier le monde avec lui, tout comme Christ étant venu dans le monde, nous réconcilier avec son Père. Et comme Dieu a envoyé Christ, Christ nous a envoyés. Notre sanctification est inutile si nous nous coupons du monde. Non, frères et sœurs. Notre sanctification doit servir pour montrer au monde qu'il est notre Dieu. C'est ça le but de la sanctification. Et c'est ce que Jésus va dire, justement, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il parle du cep qu'il est et des branches ou des sarments que nous sommes. Il va dire, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de... Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera... Ah! Et que vous serez mes disciples. » C'est Jésus qui nous dit ça. Il dit le but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Ce n'est pas pour que nous demandions à Dieu les gâteaux, les bonbons, les chocolats d'abord. Non, frères et sœurs, ce n'est pas cela le but. Le but, c'est que Dieu a d'abord son business. Il a son affaire. Il nous dit, je vous sauve pour vous associer. Je fais de vous mes associés, co-ouvriers. Vous êtes avec moi, vous travaillez avec moi. Parce que j'ai un plan. Mon plan sur la terre, c'est le plan de salut. C'est le plan que les hommes, au maximum, parviennent à la connaissance de Jésus-Christ comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Il dit, ça c'est mon plan. Et il dit maintenant, j'ai un plan, c'est une vision. Maintenant il va dire, qu'est-ce que j'ai comme moyen pour atteindre ma vision? Le moyen que j'ai sur la terre, j'ai l'église, j'ai les pierres vivantes, j'ai les branches qui sont attachées à mon fils, qui portent le fruit. Et les gens vont reconnaître que le fruit qu'ils portent, c'est un fruit divin. C'est cela, frères et sœurs. Reconnaître. On ne peut pas dissocier la sanctification du service. On se sanctifie pour servir. Quand on regarde dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs se sanctifient en vue de quoi? de servir. Il ne se sanctifiait pas pour aller garder les bœufs. Il se sanctifiait en vue du service. C'est pour cette raison que Matthieu va nous donner justement, ce sont les paroles de Jésus, dans le chapitre 24 qui précède bien évidemment le chapitre où il y a nos deux paraboles que nous avons lues. Jésus va dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça, c'est un indicateur important. Ça veut dire quoi? Ça dit que avant le déluge, les gens vivaient toujours. Et Pierre dira même que Noé était prédicateur de la justice. Autrement dit quoi? Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche, il ne cessait de prêcher la justice de Dieu à ses contemporains. Noé ne s'est pas dit, oula, Dieu m'a donné la vision de construire l'arche. Maintenant, les gens là, c'est des impies, c'est des mauvais, je vais les abandonner, je veux juste m'occuper de ma famille. Non! Noé ne cessait de prêcher. Frères et sœurs, nous ne devons pas cesser d'annoncer l'évangile. Nous ne devons pas cesser de témoigner de Christ. Parce que si nous sommes sur cette terre, c'est justement pour cette belle mission, ou du moins cette belle commission que le Seigneur nous a faite. Donc on ne peut pas dire parce que c'est la fin des temps. Vous savez, la semaine dernière, il y a une sœur qui m'a appelé de Limoges. Elle me parlait de la fin des temps. J'ai dit, waouh. Elle me dit, ben ouais, tu vois, les gens me parlent tellement des choses. Il y en a qui me parlent des puces. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est quoi votre problème? J'ai dit, qu'est-ce qui t'embête, ma sœur? Ah non, c'est pour essayer de discerner. J'ai dit, est-ce que tu as lu les Écritures? Jésus t'a dit, personne ne connaît ni le jour. J'ai dit, pourquoi tu veux te tracasser le cerveau à savoir? Il te dit, la seule chose que tu peux faire, que toi et moi pouvons faire, c'est qu'on doit se préparer. Alors, pourquoi nous n'aimons pas les choses simples? Préparons-nous pour aller à la rencontre de l'époux. Mais quand nous nous préparons sur le chemin là, nous sommes en service, alléluia. Nous servons notre Dieu. Nous n'abandonnons pas. L'Église continue d'avancer. L'Église n'a jamais été aussi nombreuse. Les gens disent, les statistiques, que deux siècles ont été importants, le 19e et le 20e. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens sur la terre. Et en particulier des chrétiens évangéliques, pentecôtistes, il n'y en a jamais eu autant. Mais il n'y en a pas encore assez, frères et sœurs. Il n'y en a pas encore assez. Noé prêchait toujours la justice. Et c'est pour cette raison que Pierre va nous dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. Dans quel but? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voici ce que Dieu, l'apôtre Pierre nous rappelle. Nous sommes là pour annoncer les vertus. Mais quelles sont les vertus de Dieu? C'est que la première chose, il a envoyé son Fils pour que l'humanité soit sauvée. Pour que l'humanité soit sauvée. Pierre poursuit toujours en disant, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes et glorifient qui? Au jour où ils les visiteront. C'est cela, frères et sœurs. Nous sommes là pour parler de Dieu, même sans ouvrir notre bouche. Nous parlons de Dieu par notre attitude. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas d'abord parler. L'adoration, c'est l'attitude de cœur qui s'exprime par une attitude de l'âme et du corps. Ton attitude parle plus que tes paroles. Nous sommes dans une société où les gens font le contraire de ce qu'ils disent. Mais Dieu nous dit, il faut que vous soyez en accord, que votre attitude, que votre conduite soit en accord avec la parole de Dieu, pour que lorsque vous allez parler de la parole de Dieu, les gens ne vous disent pas, mais écoute, c'est bizarre quand même. Tu me dis des choses que toi-même tu ne respectes pas. Et là, tu es mal barré, hein, mon ami. Quand on te dit ça, tu ne peux plus rien faire, tu es désarmé. Pour conclure, frères et sœurs, c'est le passage que Jésus nous a laissé et nous devons toujours le méditer. Voici ce que Jésus nous dit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus est sur le point de retourner au ciel. Il dit quoi ? Tout pouvoir m'a été dans le ciel et sur. Et il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Mais c'est bizarre. Jésus est en train de partir. Si le but de l'Église, c'était d'être un petit groupe reclus, entre lui-même, un groupe narcissique, un groupe qui se regarde. Ah, alors, ma sœur, comment tu me vois? Oh, t'es beau. Alors, mon frère, comment tu me vois? Oh, t'es joli. Et puis, là, on est entre nous, t'es beau, t'es joli. En une minute, on a fini, on a fait le tour. Et puis, là, on tourne en rond. Non! Il dit, l'Église n'a de la valeur que si elle va et faire des nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur ce que je vous ai, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ensuite, il va dire quoi? Voici, je serai avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Autrement dit, faire les disciples, là, c'est jusqu'à quand? C'est la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans le programme de Dieu, frères et sœurs. N'ayons pas peur de la croissance et de la multiplication. Sanctifions-nous et servons notre Seigneur dans la sanctification pour que celui-ci soit reconnu, accepté dans la société, pour que son nom soit glorifié à travers notre conduite, à travers notre façon de faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle justement à faire en sorte que vous et moi soyons les agents de cette glorieuse œuvre que Dieu nous a confiée, c'est-à-dire le salut des âmes. Que Dieu soit béni.